7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Nous laissons la parole aujourd'hui à une histoire singulière, Manon Manœuvre, 26 ans, franco-américaine. Bonjour Manon.
Bonjour.
Vous êtes la fille d'un critique musical français et d'une ex-mannequin anglaise installée aux États-Unis. Jusque-là, rien qui fasse l'objet d'un livre. Hein, si ce n'est que vous avez raconté votre histoire dans Petit Agité, une enfance dans des milieux aisés et hippies de Californie, il y a près de 10 ans, plus que ça même, vous avez 26 ans, donc deux années heureuses dans la campagne française, et puis il y a eu cette descente aux enfers dans le monde adolescent et borderline sur la côte ouest, entre skate, tatouage, ligne blanche franchie ou sniffée, ou les deux, vous racontez...
Joliment dit.
Vous racontez un parcours rebelle, en tout cas, dans un univers musical qui vous a sauvé ou précipité selon les moments. Manon Manœuvre, vous avez surtout vécu une expérience douloureuse de centre d'éducation fermé, une prison-école dans le désert de l'Utah pour adolescents intenables et aussi indésirables chez eux. Vous nous parlerez de cette plongée en eau profonde dans les désordres de la société américaine qui à la fois exalte la jeunesse et la craint comme un boomerang. On commence par le début, Manon Manœuvre, une enfance dans une jolie maison à Los Angeles. Il y a la mer, il y a le soleil, il y a les jeux sur la plage après l'école, les sorties au restaurant, les centres commerciaux, les voitures décapotables, le vent dans les cheveux, bref, tout ce qui brille et qui peut faire rêver un adolescent n'importe où dans le monde.
Oui, mes parents, ils ont vraiment construit un petit monde dans lequel je vivais. C'était magnifique, c'était irréprochable.
Et alors, qu'est-ce qui manquait dans ce petit monde, dans cette petite bulle, comme vous dites?
Mon père, on est parti quand j'étais très très jeune de Paris. Je devais avoir 1 an et demi, 2 ans. Et ma mère a décidé de repartir vivre à Los Angeles pour poursuivre sa carrière d'actrice. Et du coup, je me suis retrouvée avec toutes ses amies, mais... J'avais pas mon papa pour m'accompagner à l'école le premier jour de la maternelle ou du CP. J'étais toujours avec ma mère et du coup, je lui en ai beaucoup voulu dès mon plus jeune âge.
Bon, des parents divorcés, en même temps, c'est assez banal, sauf qu'évidemment, un couple biculturel, forcément, il y avait 11 heures d'avion entre vous et votre père. 11
000 kilomètres, ouais.
L'Atlantique et tous les États-Unis à traverser.
Ouais, c'était assez difficile. Et je remarque beaucoup aujourd'hui avec les enfants de parents divorcés, ils ont tous un peu cette adolescence agitée parce qu'ils savent pas sur qui se reposer. On se replie sur notre mère, mais normalement, dans un couple uni, les parents sont d'accord, alors que nous, enfants de divorcés, les parents sont jamais d'accord.
C'est à partir de quel âge, finalement, Manon Manœuvre, vous vous êtes sentie, ou perçue, en tout cas, comme une petite agitée?
Vraiment, depuis mon plus jeune âge, on m'a toujours appelée petite agitée, petite perturbante.
On est vite cataloguée hyperactive ou hyperactive,
aux États-Unis, très rapidement. Hein. Ouais.
Votre histoire est jalonnée de rencontres avec des adolescents qui, comme vous, font ce qu'on appelle des conneries. Donc, vous n'êtes pas la seule.
Non, mais je pense qu'on est très, très nombreux, puisque déjà dans l'école, je voyais que j'étais pas la seule, mais j'étais la moins pire. Et c'est un truc que vraiment, on s'en rend compte une fois qu'on est dans un établissement pareil, c'est qu'on n'est pas toute seule. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette histoire, pour rassurer toutes les filles qui traversent peut-être la même, peut-être moins grave, mais... On est de la génération Internet et du cinéma, enfin, on a envie de reproduire tout ce qu'on voit dans les films. Larry Clark, il a rien aidé avec ses films comme Kids ou Ken Park et tout ça. Ça donne juste envie d'être un skater rebelle, prendre des drogues et tester des trucs sexuels un peu bizarres.
C'est vrai que dans votre livre, dans votre histoire, c'est vraiment une enfance et une adolescence nourrie, biberonnée au film, à la télévision, hein, tout le temps.
Ouais, on regarde la télé avec la famille, on regarde un film ou une série qu'on aime bien, Friends... Depuis toujours.
Ouais. Dans votre livre, les adultes n'arrêtent pas d'acheter pour les adolescents. Alors pour vous, mais vos amis aussi, on achète des vêtements tout le temps, on achète des CD, on va au restaurant, on achète des glaces, on achète des gâteaux, on achète des pizzas. Si on prend les choses au premier degré, on a le sentiment que vous êtes archi gâtés. Et en même temps que les adultes ne savent pas peut-être prendre soin de vous autrement que comme ça.
Je pense que ça vient du fait qu'on est des enfants divorcés. que les parents, ils essayent constamment de renforcer leur amour par des biens matériels.
Très et américain aussi,
très
quand
américain,
même.
Mais bien sûr. Très... Mais je fais partie de la société de consommation. Moi, on montre une pub à la télé, je vais être convaincue facilement que, ouais, j'ai besoin d'une nouvelle paire de bottes, alors que j'en ai 50. On vient d'une culture où avoir tout neuf, c'est génial. Encore aujourd'hui, c'est pire parce qu'il y a Instagram maintenant, et donc il y a la quête pour les j'aime sur tout ce qu'on achète, et aller au restaurant, la surconsommation, c'est un gros problème dans ma génération, pour sûr.
Et en ce qui concerne les films, c'est vrai que là aussi, votre quotidien est jalonné par des films. On a l'impression qu'à certains moments, vous ne savez plus très bien finalement où se trouve la vraie vie entre la réalité, les fictions.
Oui, parce que ma mère est actrice. Elle réagit telle une actrice. Donc pour elle, je savais jamais si elle pleurait pour de vrai ou si elle pleurait pour du faux. Et donc du coup, j'ai appris à faire ça. Et moi, je peux pleurer sur commande. Enfin, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et vivre aux États-Unis, je pense que beaucoup de gens modifient leur vie par rapport à ce qu'ils voient à la télé, au cinéma, parce que tout le monde veut être comme une star. Mais moi, c'est plus un film d'horreur qu'une comédie romantique, ma vie. Et j'ai eu très très peur pendant beaucoup de moments, mais à la fin, vivre comme dans un film, c'est pas la solution. Parce qu'il y a personne qui va crier coupé à la fin d'une scène. Tout ce qui m'est arrivé, personne n'était là pour arrêter, ni pour me dire stop. Et c'est pour ça que ma mère, je pense, a décidé de m'envoyer là-bas.
Dans cette école de haute sécurité, on en parlera. Dans votre nom, Manon Manœuvre, il y a œuvre.
Pas mal.
Vous avez grandi avec la création musicale?
Oui. Personne dans ma famille sait tenir un rythme, donc on n'est pas des musiciens.
Ah oui?
On est des écrivains, on est des photographes, on est des peintres, on est des actrices. La création dans ma famille, ça a toujours été un point fort. On a toujours été encouragés à peindre, à lire, à s'exprimer, même à faire des défilés de mode ou des pièces de théâtre. On pouvait faire ce qu'on voulait, mais personne ne savait chanter. Mmh. Personne dans ma famille est devenu chanteur, par exemple, ou même batteur, guitariste, rien.
Il y avait aussi, de cette culture américaine, le fameux « express yourself » aussi.
Oui. Oui, oui, oui.
Qui vous a aidé à vous exprimer, mais qui ne vous a pas aidé, finalement, à vous trouver?
Je pense que la musique m'a beaucoup aidée à travers toute cette période, parce que c'était un truc qui me rapprochait à mon père. C'était un autre élément, ça me permettait...
Votre père, Philippe Manœuvre, critique musical. Hein.
Voilà, il m'envoyait des disques tous les mois, il me disait « bon, bah ça vient de sortir, écoute, dis-moi si t'aimes bien ». Et au début, il m'envoyait des disques de rock, ensuite des disques de hip-hop, et en fait, on essayait de trouver un terrain commun dans la musique. Il s'avère qu'on s'est arrêté sur NTM et Wu-Tang, on s'est trouvé dans un plaisir... Et puis le rock aussi.
Mais c'est pas le CD qu'on a choisi là en première partie d'émission,
non.
Puisque c'est vous qui avez fait le programme musical.
Ouais. Aujourd'hui, on a choisi donc Bad Reputation de Joan Jett. C'est un titre qui représente bien le début de mon adolescence. Je m'en moquais de la réputation qu'on pouvait me donner tant qu'on me remarquait. Et c'est ce qu'elle explique dans cette chanson. C'est j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et je vais le faire même si ça vous plaît pas.
No!
êtes une rockeuse qui vous ressemble ou pas, Manon Manœuvre, Joan Jett?
Joan Jett, ouais, ben, c'est une rockeuse aux cheveux noirs qui n'en a strictement rien à faire de ce que les gens pensent d'elle. Et j'ai essayé, dans mon plus jeune adolescence, de trouver quelqu'un à qui je pouvais me rapprocher niveau musicalement. Et ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est que j'adore le hip-hop, j'adore le rap, moi j'écoute quasiment que ça. Et pourtant, je ne peux pas m'y retrouver dans beaucoup de morceaux parce que je n'ai jamais grandi dans les ghettos de Houston ou d'Atlanta. Je n'ai jamais vendu de crack à l'âge de 8 ans et j'ai jamais tenu une arme. Donc,
bon, les rappeurs vont pas tous être contents, peut-être s'ils nous écoutent de cette image que vous leur donnez. Ils ont pas tous vendu du crack à 8 ans. Quoique,
le problème c'est que beaucoup de morceaux ne disent que
ça. Ça raconte ces histoires-là, vous avez raison.
C'est beaucoup de... Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis une rockeuse et j'aime beaucoup le hip-hop, mais je resterai une rockeuse.
Manon Manœuvre, vous publiez Petite Agitée. C'est l'histoire d'une descente aux enfers, d'une adolescente un peu livrée à elle-même, en même temps très protégée, très aimée par ses parents. C'est là toute l'ambivalence de votre récit. À un moment donné, on a voulu vraiment vous faire rentrer dans les cases, hein, puisque vous étiez agitée. Et à l'âge de 11 ans, vous êtes partie vivre en France, dans la campagne française, avec vos grands-parents paternels. Une parenthèse heureuse, vous semblez dire, finalement.
C'était génial, vivre dans la campagne française avec mes grands-parents que je voyais normalement une fois par an. C'était cool, j'allais au jardin avec mon grand-père, trouver les légumes pour le déjeuner du midi.
Très exotique pour une Américaine, c'est ça?
Oui, non, mais c'était simple. Il n'y avait pas besoin, justement, on n'avait pas droit à la télé, autant qu'aux États-Unis. Tout devait passer par l'école d'abord. L'école, l'éducation avant tout. C'était magique et c'était bien que de grandir avec mes grands-parents parce que ils étaient unis. Donc quand je disais quelque chose à ma grand-mère, si mon grand-père n'était pas d'accord, ça restait uni, il n'y avait pas de dispute à avoir et c'était très agréable. C'était doux comme moment, en fait, dans ma vie.
Doux et puis un véritable apprentissage intellectuel, oui. Peut-être plus que les séries américaines, je ne sais pas, quoique. À 11 ans, vous écrivez « Mon grand-père me faisait écrire des rédactions, lire des ouvrages de philosophie et m'apprenait à bien me servir de mes pinceaux, de mes gouaches ou de mon aquarelle. J'ai aussi appris l'histoire de France. Ils avaient vécu deux guerres et l'importance d'apprécier ce que j'avais. Ma grand-mère m'enseignait à me conduire comme une jeune fille bien élevée, à manger correctement à table et à cuisiner. »
Oui, rien d'extraordinaire. Et pourtant, tellement de gens n'ont pas cette éducation au début de leur vie. C'est incroyable, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui ne savent pas cuisiner un plat de pâtes. Et ça me stresse déjà parce que je ne vais plus manger chez elles. Mais c'est cette éducation française qui est à la base une éducation qui devrait être inculquée à chaque enfant.
Mais en même temps, vous avez grandi avec une mère européenne, anglaise, hein, qui n'avait pas une vie déjantée à Los Angeles non plus.
Non, mais elle n'avait pas non plus le temps de s'occuper, comme mes grands-parents, bon, à la retraite, bien sûr, avaient le temps de s'en occuper de moi. Ils avaient le temps de m'accompagner à l'école tous les matins, venir me chercher, surveiller avec qui je passais mon temps, avec qui je discutais. Ma mère n'avait pas le temps de tout ça. Elle essayait de, justement, gérer, elle, sa propre vie amoureuse, gérer sa fille, gérer l'école, gérer les activités extrascolaires, et puis aussi gérer sa propre compagnie. C'était pas évident, parce que après la photo et le mannequinat, elle a monté sa propre boîte, et ça a été très difficile pour elle de tout équilibrer, et elle a pas réussi.
Comment s'adapte l'ado américaine rebelle dans cette campagne française si tranquille?
Bah, je n'étais pas encore une ado très rebelle, donc ça allait.
Mais déjà agitée.
Oui, j'étais déjà agitée. J'avais un accent très fort américain. Du coup, les enfants se moquaient un peu de moi à cause de mon accent. Et c'était une autre culture, une autre mentalité. Il a fallu s'adapter très, très rapidement. Mais je me suis fait des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. 16 ans après, ils sont toujours là. C'est mon équipe, c'est comme mes frères et mes sœurs. On s'appelle régulièrement. On a bien rigolé et puis j'ai appris à jouer au foot. Voilà.
Il y a une scène, un moment dans votre livre, à propos de l'autorité. Une de vos amies américaines, hein, au lycée en Californie, vous dit un jour « Moi, je ne laisserai jamais mes gamins faire la moitié de ce qu'on fait en ce moment. »
C'était à Santa Barbara, oui. On se dit que, quitte à faire l'expérience, autant que ce soit nous qui les faisons, pour justement que moi, quand j'aurai un enfant et que cet enfant aura 14 ans, je remarquerai des choses. Au moins, je serai pas comme ma mère qui, apparemment, n'aurait jamais fait de bêtises dans sa vie. Mais au moins, je saurai, je verrai les drapeaux rouges et je pourrai aider mon enfant là-dedans, mais je voudrais jamais que ma fille fasse le mur, jamais.
Votre mère est revenue vous chercher
Oui, à l'âge de 12 ans.
C'est ça, 12 ans, et vous repartez pour les États-Unis.
Oui, et ça bascule très très rapidement. À partir de là, elle m'a mis dans un pensionnat, donc c'était pas encore l'école de redressement. Et je me suis retrouvée dans une école à l'opposé, par contre, du village français d'où je venais, où tous les enfants étaient enfants de paysans ou d'agriculteurs ou boulangers, fleuristes. Là, j'arrivais dans une école où tous les enfants étaient fils de stars, de députés, de shérifs. Enfin, je me suis retrouvée dans un milieu que je ne connaissais pas. Et j'étais la moins gâtée. On disait tout à l'heure que j'ai eu une enfance gâtée. Eh ben, il y a bien pire que moi. Et je m'entendais pas bien avec les élèves de cette école. C'était pas ma tasse de thé.
Quelle était la mentalité justement de ces adolescents ultra privilégiés sur le plan matériel aux États-Unis?
Les enfants avec qui j'étais à l'école, les adolescents, ils voulaient tous avoir les derniers vêtements. C'était que des vêtements de luxe à l'école. Alors que pour moi, on est à l'école, on n'a pas besoin de porter des vêtements de luxe. C'est pas un défilé de mode. Tous les jours, on me critiquait parce que mon polo, c'était pas un polo Lacoste, c'était un polo H&M de base. Enfin, c'était vraiment une image. C'était comme être à l'école avec des poupées Barbie. Beaucoup de roses partout et de paillettes et de glace. Enfin, pas du tout mon univers.
Comment les adultes américains qui étaient chargés de l'éducation des jeunes, aussi bien dans les établissements scolaires ou les thérapeutes, parce que vous parlez beaucoup des thérapeutes, en fait,
oui,
on dirait un
beaucoup.
Psy en français, hein, parce que vous passez votre vie à voir des psys sous l'injonction de votre mère, mais comment se positionnaient les adultes par rapport à ce que vivaient les adolescents, vous et les autres, vos amis aussi?
Ils n'étaient pas au courant de beaucoup de choses. On cachait vraiment bien notre jeu, la plupart d'entre nous. Jamais j'ai entendu à l'école une fille se faire enlever de cours parce qu'elle avait été chopée en train de fumer une cigarette. On était discrets quand même. Et on ne mettait pas en avant toutes nos aventures qu'on faisait. Mais moi, quand j'essayais de raconter aux amis de ma mère que je traînais avec des garçons un peu plus âgés et que, ah ouais, c'est trop cool, ils m'emmènent dans leur pick-up et on va sur la plage...
À 14 ans, hein.
Voilà, à 14 ans, les amis de ma mère, elles disaient, mais c'est pas normal que des garçons de 21 ans ou de 22 ans aient envie de traîner avec une fille de 14 ans. Et moi, je le voyais pas comme ça. Moi, je voyais comme, je suis trop cool. Et c'est le problème que font beaucoup de filles à cet âge-là. Elles pensent qu'un mec plus âgé est intéressé par elles, et ce n'est souvent pas le cas.
Il y a un problème avec l'autorité entre les adultes et les adolescents. Là, vous avez grandi en Californie, dans ces milieux-là.
Oui, peut-être un problème de présence, je dirais plus.
Présence, pas autorité.
Non, je pense que... Déjà, moi, si ma mère elle avait été à la maison tous les jours quand je rentrais de cours...
Mais vous savez, il y a beaucoup de pays où les mères ne sont plus là avec leurs enfants tous les jours. Elles
travaillent. Non, je demande pas que ma mère soit là tous les jours à m'attendre, bien sûr.
Mais une autorité à distance, vous pensez que...
Voilà, quelque chose, un coup de fil pour bien surveiller que je suis bien à la maison après les cours et que je sois pas sortie par derrière pour aller faire autre chose. C'est pas normal.
Vous restez avec nous, Manon Manœuvre. 7 milliards de voisins, on se retrouve dans 3 minutes. Et bien sûr, on va continuer la suite de votre histoire et notamment cette douloureuse expérience dans un centre de haute sécurité pour jeunes délinquants dans l'Utah, aux États-Unis. On va en parler juste après le flash. Retour dans 3 minutes, restez avec nous.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en compagnie de Manon Manœuvre qui publie Petit Agité. C'est votre histoire, Manon Manœuvre. Vous êtes fille de critique musicale et vous avez grandi alors avec cette culture à la fois française et américaine, mais vous êtes surtout américaine. Vous avez grandi aux États-Unis, en Californie, une adolescence un peu déliquescente, abandonnée à elle-même et en même temps surprotégée, surmédicalisée. Votre récit dit beaucoup de choses sur cette jeunesse américaine, même si on peut pas faire bien sûr de généralité. Après ces deux années, cette parenthèse heureuse que vous nous racontiez avant le flash dans la campagne française, comment finalement êtes-vous descendu si vite et si bas? Ça a commencé par un look de punk. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire.
Non, je pense que tout adolescent à un moment ou un autre traverse sa période punk. La descente, elle s'est fait rapidement parce que je me sentais très déprimée et très seule. Le pensionnat où j'avais été m'a vraiment pas plu. Ensuite, j'ai été hospitalisée pour cause de dépression. et une tentative de suicide qui n'a pas eu lieu, mais il y a eu une pré-tentative de suicide. Et on m'a envoyée dans un hôpital psychiatrique où j'ai passé mon 13e anniversaire. Ça, c'est quand même assez traumatisant. On pouvait même pas couper le gâteau parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir de couteau dans l'hôpital. Donc, on coupait avec des feuilles de papier. Enfin, bref. Ça m'a vachement traumatisée. Et puis, par la suite, ça s'est empiré. Je n'avais plus envie d'être à l'école. J'avais plus envie de parler à ma mère. Ma mère m'agaçait de plus en plus chaque jour, en fait. J'aimais jamais être seule avec ma mère. Souvent, je lui demandais, oh, qui vient dîner ce soir? Est-ce que quelqu'un vient dîner ce soir? Je voulais pas me retrouver à table seule avec ma mère. Elle me couvait beaucoup. Et moi, je n'avais pas envie de ça. Enfin, j'en pouvais plus. Et du coup, ça a apporté que je me rebelle de plus en plus contre elle et que j'affirme de plus en plus vouloir partir vivre en France avec mon père. Et elle m'écoutera pas parce que je ferai trop de conneries pour elle.
À 14 ans, vous passez par la fenêtre de votre chambre le soir venu pour aller faire du skate, pour voir des garçons. C'est vrai que vous avez quand même une vie très agitée à cet âge-là où on est encore une petite fille. À 14 ans, vous racontez ce moment, un garçon, il a roulé un billet de $100 et me l'a tendu. Là, je vous cite, honneur aux dames, j'ai pris le billet, j'ai fait comme si j'étais Penelope Cruz dans Blow, donc toujours les références cinématographiques.
Bah, bien sûr.
J'ai sniffé, pincé mes narines en renversant la tête en arrière, j'ai senti le début d'un flash. Et puis plus tard, vous écrivez « Lorsque je suis arrivée, ma mère était déjà au lit avec son verre de vin à regarder le feuilleton Will and Grace. Je sentais l'anxiété monter. Je lui ai dit que j'étais super fatiguée, que j'allais me coucher. J'ai mis un album de Courtney Love. Je me suis allongée dans mon lit avec un livre parlant d'une fille qui se demande ce qu'être normal veut dire. »
Je lisais beaucoup de livres à l'époque. C'était Virginie Despentes, d'ailleurs l'ex-compagne de mon père, m'aidait beaucoup avec ça. Elle m'envoyait des livres chaque semaine quand j'habitais en Californie, pour que je continue de faire travailler mon cerveau. Elle était persuadée qu'aux États-Unis, on faisait pas assez travailler les cerveaux des enfants. Et ma mère aussi me donnait des livres, mes grands-parents. Et j'aimais beaucoup lire. Et un jour, j'étais tombée sur un roman d'une fille qui s'appelait « Casquette normale ». Et je me suis retrouvée dans ce livre parce que tout le monde voulait justement que ça soit la petite blonde avec le bandeau dans les cheveux et la tenue d'écolière. Elle avait juste envie de mettre une robe déchirée et se teindre les cheveux bleus. Mais pourtant, elle avait rien d'anormal. Moi, je me trouvais anormale car je voulais toujours pousser les limites. Et c'est pour ça que je pense que ça a vite dérapé. C'est parce que je voulais être trop différente, en fait.
Mais en même temps, cette image de l'adolescent ou de l'enfant parfait aux États-Unis n'existe pas parce que l'enfant a énormément de droits, on lui laisse énormément la parole et il est très libre et donc très vite il déborde.
Oui, il y a beaucoup de débordements aux États-Unis avec les adolescents, je suis d'accord. Après, l'enfant modèle existe puisqu'ils sont tous dans les facs des États-Unis aujourd'hui et je les vois et ça vient vraiment, je pense, de la vie familiale. Moi, j'ai eu une vie familiale très, très rock'n'roll. Je suis devenue une enfant rock'n'roll. Je sais pas à quoi espéraient mes parents ou à quoi ils s'attendaient, mais je suis le fruit de mes parents. Et
des albums qu'ils écoutaient,
c'est ça? Beaucoup, beaucoup d'albums qu'on écoutait ensemble. Tout module la vie qu'on attaque, en fait.
Ouais. Alors, évidemment, vous habitez dans des quartiers où, bon, circule cocaïne, beaucoup d'autres choses. On a l'impression, d'ailleurs, qu'en Californie, entre LA et Santa Barbara, le catalogue disponible de produits chez les voisins du coin est assez infini, non?
Il n'y avait rien d'autre à faire. Dans la ville de Santa Barbara, on le dit, d'ailleurs, très souvent, soit c'est pour les nouveaux mariés, soit c'est pour les bientôt décédés. C'est une vraie phrase de Santa Barbara. Et en fait, cette ville, c'est parfait si on y va pour fonder une famille ou si on est à la retraite. Donc, c'est ça leur phrase. Nous, en tant qu'adolescents, on n'est prêts ni l'un ni de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on trouve des choses pour se divertir et la plage, ça va quelque temps. Mais quand on a eu 14 ans ou même avant, j'ai des amis, elles sont devenues accros au Valium, aux Xanax. Anti-anxiété, c'était assez puissant.
Un anxiolytique, c'est ça.
Voilà. C'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que les gamins de riches. Comme les parents, ils prennent les pilules, les gamins les reprennent. Et c'est un cycle vicieux, en fait.
Vous n'avez pas cherché tout de même à diaboliser un peu la jeunesse américaine dans ces endroits-là?
Qu'est-ce que j'aurais aimé? Et pourtant, non, c'est vraiment ce qui nous arrivait tous les jours à l'école, au lycée. C'est un monde à part. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils viennent s'emménager à Los Angeles, c'est qu'il faut avoir la mentalité pour supporter tout ça. Il y en a beaucoup, ils n'y arrivent pas, ils sont trop fragiles. C'est une mentalité où il ne faut pas avoir peur. il faut vouloir essayer de nouvelles choses, mais après il faut connaître ses limites et il faut pas s'étonner si certaines personnes dans son entourage s'avèrent ne pas être qui on pensait qu'ils allaient être. Les garçons que j'ai rencontrés, ils m'ont vraiment amadoué, c'était des garçons plus âgés. Tout de suite, ils ont été très sympas avec moi, m'offrir une bière de temps en temps. Et puis, à la fin, ben, on a su très rapidement pourquoi ils étaient aussi gentils avec moi. Et ils m'ont agressé sexuellement à plusieurs. Enfin, ils m'ont fait croire qu'il y avait d'autres filles qui allaient nous rejoindre, que ça allait être une fête, comme dans les films. Et moi, j'étais jeune. Et finalement, j'ai vu le côté diabolique de ces hommes plus âgés, en fait.
Comment et pourquoi vous avez été envoyée au bout du compte dans un centre de haute sécurité pour jeunes délinquants, alors là, à l'autre bout du pays, hein, dans l'Utah, plusieurs heures d'avion, à 14 ans?
Ouais, j'ai été envoyée là-bas, je pense, car ma mère avait très très peur pour ma vie. Elle avait peur pour ma sécurité. Et puis, elle avait les psys derrière qui renforçaient l'idée qu'il fallait m'envoyer là-bas. Parce que je n'étais pas normale.
Les psys, vous en parlez presque comme d'une secte, finalement, qui vous aurait noyautée ou pas?
Ouais, les psys, vous savez, ils aiment bien prescrire des médicaments sans vraiment faire les renseignements ou les recherches sur la personne. Aux États-Unis, en tout cas, je ne critique pas du tout les psys français parce que j'en connais pas. Mais aux États-Unis, c'est vraiment médicaliser l'enfant afin qu'il soit calme et qu'il rentre dans les rangs.
Vous n'aviez pas vraiment un profil de délinquante, néanmoins vous faisiez peur à votre mère. Vous aviez tout cassé dans votre chambre, vous preniez de la drogue.
J'en ai pris une fois de la drogue. Et
là on parle des drogues dures.
Oui. Ils ont pensé que c'était de l'héroïne, c'était du speed. L'infirmière s'était trompée. Gros moment dans ma vie d'ailleurs. Je sais pas, ma mère, elle avait peur. Elle savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait quand son enfant se comporte comme l'incroyable Hulk, alors que 2 heures avant, ça allait très très bien.
La chanson qui évoquerait le plus ces moments où on a envie de se taper la tête contre les murs dans cette presque école-prison de haute sécurité pour adolescents.
C'est I'm Just a Girl de No Doubt, donc groupe de Gwen Stefani. Elle avait un groupe punk rock de Californie avant et justement, cette chanson représente exactement ce qu'elle ressentait et ce que nous on ressentait aussi. C'est on est juste des filles mais on ne veut pas être des filles mises dans la boîte comme ils souhaiteraient. Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, already a fugitive. So don't let me have any rights. Oh,
Girl, c'était un tout petit peu plus compliqué que ça tout de même, votre histoire, Manon Manœuvre. 26 ans aujourd'hui, franco-américaine ou américano-française, je ne sais pas ce qu'il faut dire. En tout cas, vous avez raconté dans votre histoire petite agitée cette descente aux enfers et jusqu'à l'enfermement dans une école, un centre de haute sécurité pour adolescents délinquants. Les adolescents que vous retrouvez là-bas, vous aviez 14 ans, hein, ouais. Tout était interdit ou presque.
Tout était interdit, on peut le dire. Oui. Tout ce qui pouvait nous faire rigoler, sourire, la musique, le cinéma, tout était interdit.
Et tout était soumis à règlement, les vêtements?
Oui, on n'avait pas le droit de porter des vêtements de certaines couleurs parce que ça pourrait faire référence à un gang. On n'avait pas le droit de porter des t-shirts trop courts, des pantalons trop baggy. En fait, il fallait vraiment rentrer dans les rangs, limite militaires.
À quoi ressemblait alors la vie quotidienne, puisque vous y avez passé...
Quatre mois, ouais. C'était au lieu de 4 ans, donc c'est quand même pas mal.
Parce que la plupart des adolescents entrent là et restent jusqu'à leur majorité, finalement.
Si leur cas est décidé comme tel par le jugement, les psychiatres, les parents, oui. Mais il y avait beaucoup de filles qui restaient 1 an, 2 ans. Moi, on m'avait prévenu que mon dossier était assez épais pour me faire rester jusqu'à mes 18 ans.
Mmh. En quoi il était épais, votre dossier, Manon?
Bah, les psys, ils aiment bien fabuler un peu les choses, rendre plus dramatique quelque chose qui n'était pas tant que ça. Enfin, je comprends que j'ai eu beaucoup d'écart dans ma vie. Mais jamais j'aurais pensé que j'aurais besoin de 4 ans de thérapie et de médicaments.
Ouais. Alors justement, cette vie quotidienne, enfermement, thérapie forcée...
Réveil à 6h du matin, on devait faire nos lits de façon militaire, donc c'est qu'on puisse lâcher une pièce dessus et que ça rebondisse.
Tellement le drap et la couverture étaient tendus, c'est
ça? Ouais. Tirer... Bon, j'y suis arrivée quelques fois, mais pas...
Et sinon, quoi?
Bon, on avait droit à 3 essais. Et au bout du 3e essai, on se prenait des heures de colle si on n'y arrivait pas. Ce que je trouvais toujours un peu ridicule. Mais
Donc c'est thérapie et humiliation?
Un peu. Ça marchait pour certaines filles parce qu'elles en avaient tellement marre de se faire humilier. Du coup, elles rentraient dans les rangs. J'ai très rapidement compris qu'il fallait que je reste discrète, que je me fasse basse parce que en plus, je suis arrivée avec les cheveux rouges. Et c'était contre
c'était
le règlement.
La toute dernière lubie, c'est ça?
Oui, voilà, c'était le cadeau d'adieu de ma mère. Elle m'a laissé me teindre les cheveux en rouge. Et tous les jours, c'était, on se réveillait, on faisait nos lits, on s'alignait par ordre alphabétique, par nos noms de famille. Donc, il fallait connaître les noms de famille de chaque fille qui était à notre étage. Et on s'alignait, et après, ils faisaient le roll call. Donc, quand ils appellent chaque personne pour bien vérifier qu'ils sont présents, on allait en dessous pour... petit déjeuner. La nourriture était très très bonne par contre. Là, on avait de la chance, c'était délicieux à chaque fois.
Comment vous expliquez ça d'ailleurs?
Mon père et moi, on avait une sorte de théorie qui nous droguait via la nourriture en fait, qu'ils ajoutaient d'autres médicaments sans nous le dire dans la nourriture parce qu'on était toujours heureux à l'idée d'aller déjeuner ou dîner parce qu'on se retrouvait à table et on pouvait discuter non sans être surveillé par les surveillants qui étaient assis comme une toile d'araignée, oui. Où il y avait plusieurs cercles à l'intérieur. Voilà. Donc, au cercle extérieur, il y avait les surveillantes, puis il y avait un cercle où il y avait des étudiantes, encore un cercle avec des surveillantes, oui. Et puis un autre cercle avec les détenus. Et
donc, ça rappelle un peu quand même aussi la métaphore de l'enfermement, ça.
Voilà, non, exactement. On était enfermés, encerclés par ces surveillantes qui nous écoutaient, chaque mouvement était observé. Puis après, on allait à l'école. J'ai pas loupé une journée d'école en 4 mois. Et c'était les thérapies de groupe après, le déjeuner, thérapie individuelle.
Beaucoup
après,
de médicaments.
2 fois par jour, on nous donnait des médicaments.
Obligatoire.
Ouais, il y avait des filles, même elles en prenaient 3 fois par jour. Mais moi, j'en avais que 2 fois le matin et le soir.
Vous avez le sentiment que vous n'auriez pas dû finalement voir autant de médecins psychiatres? Est-ce que autour de vous, les jeunes étaient tous atteints de troubles psychiatriques, comme ce qu'on vous avait dit, vous?
J'étais moins perturbée que beaucoup des patientes qui étaient là avec moi. Il y en avait beaucoup, elles étaient accro à la drogue, etc. Tout ça, ça a juste permis à comprendre que, ok, j'ai déconné, mais je ne mérite pas non plus d'être ici.
Vous parvenez à voir aujourd'hui, près de 10 ans après, avoir du recul sur finalement la cause du malaise adolescent, de tous ces adolescents qui étaient avec vous dans ce centre de haute sécurité?
Oui, ben il y a eu des filles super riches, comme les écoles avec qui j'étais en pensionnat, puis il y avait des filles plus que pauvres, obligées de braquer des épiceries pour se payer à manger. C'était désolant de voir que des filles de mon âge, était obligé de braquer une épicerie. Enfin, à 14 ans, t'as pas envie de braquer une épicerie, t'as envie de jouer avec tes copines après l'école. Et il y en avait beaucoup, elles étaient dans des cas désespérés.
Cette prison-école était payante pour vous, par exemple pour votre mère, hein, ça coûtait assez cher, je crois que c'était 100 000 dollars l'année.
À peu près 100 000 dollars l'année, mais c'était surtout pris en compte par l'État de Californie.
Pris en charge, ouais. Si le dossier était suffisamment lourd en termes
voilà,
de délinquance.
Si le dossier était assez lourd, assez rempli, assez complexe, qu'il s'avérait que j'étais une nuisance pour la société ou pour moi-même, si n'importe quoi qui pourrait faire croire que je serais un danger.
Ouais.
Voilà.
Et vous alors, c'était pris en charge par l'État de Californie?
Eh ouais, au
donc
bout d'un
quand
mois,
même.
Ouais, mais c'est encore une fois les psychiatres,
vous
ils aiment
pas
bien.
Le croire, ouais.
Les psychiatres, ils aiment bien écrire des choses qui à la fin ne sont pas aussi dramatiques. Encore une fois, enfin.
Il y a des parents dans ce centre fermé qui refusent de reprendre leurs enfants alors qu'ils vont bien, en tout cas au dire des thérapeutes sur place. Ils se sont bien comportés dans l'école et ils disent on veut pas la reprendre parce qu'on a peur d'elle.
C'était encore une fois très triste ce jour-là, je m'en rappelle. Mais c'est surtout, en fait, beaucoup de filles se sont retrouvées dans cette école à cause de leurs parents. Tout simplement. Enfin, un père abusif, un beau-père abusif, une belle-mère qui boit énormément, qui tape. Enfin, ça va pousser aux enfants de se rebeller et de ne pas vouloir ça. Ou, justement, de se dire, je ne mérite pas mieux que ça. Et cette école a aidé beaucoup de filles. Moi, personnellement, ça m'a aidé à me montrer la personne que je n'avais pas envie de devenir. Donc, un zombie. Je ne voulais pas être ça. Je voulais être ma propre personne. Mais il y a des filles, elles allaient tellement mal mentalement que pour elle, devenir un zombie bien élevé, qui parle bien, qui prie, pour elle, c'était la meilleure solution. Il faut de tout pour faire un monde, on peut pas le nier. Il y en a, ils ont un esprit libre, il y en a d'autres, ils ont besoin qu'on leur forme leur esprit.
La troisième chanson que vous avez choisie?
Ouais, pour moi, c'est la chanson qui représente le mieux la Californie. C'était la chanson, j'avais droit à un album dans l'école et j'ai choisi l'album d'Incubus. Parce que il y avait une chanson là-dessus qui me faisait penser à chaque fois à la côte ouest, au trajet que je faisais avec ma mère de Los Angeles à Santa Barbara, coucher de soleil, océan, palmiers, et voilà, c'était cette chanson-là qui me venait à l'esprit. A thousand diamonds strewn across the blue plain. I need again.
Manon Manœuvre, puisque vous êtes franco-américaine ou américano-française, je ne sais pas, je vais vous laisser désannoncer le disque. C'est vous qui faites le travail aujourd'hui.
C'était Wish You Were Here de Incubus, groupe rock californien. Voilà. Mmh.
Manon Manœuvre, vous avez surtout vécu une expérience douloureuse de centre d'éducation fermé, une prison-école dans le désert de l'Utah pour adolescents intenables et aussi indésirables chez eux. Comment vous vous en êtes sortie ?
Grâce à mon père. Il s'est entouré de 4 avocats surpuissants.
Il est en France, on lui dit qu'il a peu de chances que ça aboutisse.
Voilà, parce
c'est votre mère qui vous a placé là et elle vit aux États-Unis, elle.
Et grâce à un petit fait qui s'appelle l'autorité parentale, qui a été établie au divorce de mes parents avaient chacun 50% de droits sur moi. Donc du coup, quand ma mère m'a placé dans cette école, mon père n'a pas perdu ses droits de parent et donc avait le droit de me faire sortir. Je sais pas comment il a fait, mais
vous êtes
il
sortie,
a assuré. Ouais,
avec
il
un
a
avocat.
Assuré de dingue.
Aujourd'hui, vous en voulez encore à votre mère ?
Non.
Vous lui en avez voulu beaucoup ?
C'est pour ça un peu que j'ai écrit ce témoignage. Parce que je voulais qu'elle comprenne d'où moi je venais, quand je m'énervais contre elle après.
Oui, on comprend aussi ce qu'elle a vécu, hein, ceci dit.
On comprend, voilà. Mais c'est
donc,
pour ça que j'ai
décidé... Donc, pas diabolisée. Hein.
Oui, non. J'ai voulu faire ce témoignage pour justement expliquer aux gens... Ok, voilà ce qu'elle, elle a dû subir, voilà ce qui était sa solution, voilà ce que moi j'ai subi, voilà ce qui est ma solution, et maintenant regardez-moi.
Aujourd'hui, alors après toutes ces années de rébellion, de petites agitées, puisque c'est le titre de votre histoire, comment vous vous êtes reconstruit ? Vous êtes reconstruit finalement alors avec votre père, cette présence masculine que vous n'aviez jamais eue réellement auparavant, et en France, qu'est-ce qui a compté le plus, le père ou la France ?
Oh là là, je pense... Grandir, du coup, avec mon père, passer l'étape de l'adolescence. Mon père, il est quand même passé d'avoir été petit papa célibataire dans son appart à Paris à devoir tout à coup nourrir sa fille tous les jours, vérifier que les devoirs sont faits. On a appris à vivre ensemble, à grandir ensemble aussi. Je pense que ça l'a beaucoup aidé dans les périodes que lui passait dans sa vie. Et on s'est retrouvés. Et j'aime la personne que je suis devenue maintenant. Vraiment, j'aimais pas la personne que je devenais quand j'avais 13 ans. Et maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis, j'ai fait beaucoup de chemin.
Avec le recul aussi, Philippe Manœuvre, le rocker que l'on connaît, au départ, la complicité que vous avez, c'est une complicité autour de la musique. Il y a un côté très couple d'adolescents, finalement, pas tellement relation père-fille. Il a dû inventer une autorité avec vous. Quand vous le retrouvez à New York, au moment où vous allez plus ou moins vous enfuir des États-Unis et de ce centre fermé, vous tentez tout de même quelques petites crises.
Et très rapidement, j'ai compris que ça allait pas passer.
C'est ça. C'est ça, il dit stop.
C'est un papa. C'est un papa ours. C'est un très bon papa. Et ce qu'il m'a toujours expliqué, c'est que il faut qu'on se respecte. Si on veut que cette relation père-fille fonctionne, si on veut en mettre plein la vue à ta mère, au psy, au médecin, à tout le monde qui nous a dit qu'on n'allait pas y arriver, il faut que toi et moi, on se respecte, qu'on s'écoute et qu'on se comprenne. On avait beaucoup de chance que Virginie Despentes était présente aussi parce que du coup, ça faisait une présence féminine dans la maison. Mais mon père et moi, on s'est toujours beaucoup respectés. Et c'était mon idole, c'était mon père, je le voyais jamais. Et maintenant, j'habitais avec lui et je voulais qu'il soit fier de moi surtout.
Et le message pour les adolescents qui vont mal, vous qui allez bien aujourd'hui, près de 10 ans après, vous êtes revenu. Alors, vous êtes reparti vivre en France pour vous reconstruire sans aucun thérapeute.
Ouais, pour passer le bac. Ouais. Et aller à la fac avec mes amis.
Et ne plus jamais voir de psy. Et vous êtes ensuite reparti en Californie où vous vivez aujourd'hui, vous êtes photographe. Qu'est-ce que vous diriez aux adolescents qui vont mal aujourd'hui ? Pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, partout.
Dans le monde entier. Tenez bon. Tenez bon, soyez forts et ne cassez pas votre chambre.
Ça sera le mot de la fin. Merci à vous Manon Manœuvre.
Merci
d'être
beaucoup.
Venue dans le studio de 7 milliards de voisins. Petite agité, c'est l'histoire qu'il faut lire et découvrir aux éditions Flammarion. Bon retour aux États-Unis, à Los Angeles où vous êtes photographe. Merci à vous tous pour votre fidélité et merci à l'équipe Cécile Lavolo, Romain Dubrac pour toutes vos questions. Vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr et également réécouter toutes nos émissions en podcast sur rfi.fr à la page des 7 milliards. Demain, 7 milliards de voisins à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Comment se former un jugement critique et citoyen face aux médias ? Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 ou bien poster vos messages sur Facebook, sur Twitter ou encore à 7milliards@rfi.fr. Merci de votre fidélité. À demain, semaine de la presse à l'école.